délivrer des otages. Alors que ces deux soldats reviennent couchés dans un cercueil, portés par leurs compagnons d'armes, nous sommes à nouveau confrontés à ce marchand de mort que nous avions déjà vu auparavant. Et depuis le jardin d'Éden, l'humanité a été prise en otage. Il a fallu qu'il y en ait un qui donne sa vie pour libérer ses otages. Et peut-être que certains parmi nous ce soir, derrière l'écran ou assis dans ce lieu, sommes toujours prisonniers, toujours pris en otage de cet adversaire redoutable. Alors ce soir, pour le thème, ce que Jésus aimerait dire à Astérix, Obélix, et voire même le pape, je vous invite à regarder cette image. Vous pouvez identifier, n'est-ce pas, les enfants ? Même les plus grands, vous pouvez identifier, n'est-ce pas ? Il s'agit d'Astérix, suivi de Obélix. Obélix, comme on nous a dit tout à l'heure dans la présentation, un homme qui aime bien manger. Tout ce qui bouge, ou surtout le gibier. Mais pas que ça. Dès qu'il y a une bagarre, dès qu'il y a un conflit, il aime être là. Il aime bousculer, renverser, jeter en l'air les soldats, et pas n'importe lesquels. Il aime bousculer les soldats romains. Puisque l'auteur, les auteurs d'ailleurs, puisqu'ils sont deux de cette légende d'Astérix Obélix, ont écrit sur ces deux personnages vivant certainement à l'époque de Rome. Et on nous dit que ces deux personnages, dans leur existence, faisaient la terreur de ce gouvernement de Rome, la Rome impériale, qui, à ce moment-là, dominait le monde d'une main de fer. Et un peu plus tard, nous pouvons voir dans le livre que nous avons, que vous avez, et si vous ne l'avez pas essayé de l'avoir, il s'agit de la Bible. Qu'en est-il des Romains dans la Bible avant Jésus-Christ ? Alors, tout part de cette histoire qu'on a déjà vue ensemble dans Daniel, chapitre 2, où nous voyons là un roi, pas n'importe lequel. Les historiens nous parlent d'un homme très fort, pas fort physiquement, mais fort dans sa façon de gérer les choses, dans sa façon de gouverner, Nebuchadnezzar, probablement le plus grand monarque qui existe à ce moment-là. Et un soir, alors qu'il est sur sa couche et qu'il dort, paisiblement, il sera bientôt agité par un rêve. Et pas n'importe quel rêve, parce que ce rêve va tellement le troubler qu'il va devoir faire appel à ses magiciens, aux astrologues, à tous ces grands de son gouvernement qui sont là pour le conseiller, l'aider, l'encourager et trouver une solution à ce problème. Et voilà que ces mêmes sages, ces grands, ces grosses têtes, comme on pourrait dire, ces scientifiques de l'époque, reconnaissent leur incapacité, reconnaissent qu'ils ne peuvent rien face à cette demande extraordinaire. Racontez-moi le rêve que j'ai eu et surtout, donnez-moi l'explication. Et puisqu'ils sont incapables de le faire, le roi va se mettre dans une fureur terrible et il va faire un décret. Tous ces hommes vont devoir mourir. Vous ne pouvez pas me dire mon rêve, vous allez mourir. Et c'est là que Daniel entre en jeu. Il entre en scène parce que lui aussi faisait partie de ces hommes à la cour du roi, à son service, qui était censé être là au moment où le roi a fait appel à ses magiciens. Mais lui n'était pas invité. Peut-être parce que c'était un simple déporté. Mais il a connaissance de ce décret qui le mettra certainement à mort à un moment ou à un autre, comme les autres. Et il va faire appel en disant au roi, accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît. Et le roi, c'est ce qu'il va faire. Le roi va lui donner du temps. Et Daniel va se retirer dans ses chambres, avec ses compagnons certainement, et là, ils vont prier. Ils vont réclamer la puissance de Dieu. Et là, Dieu va se manifester puisque Dieu donnera le rêve à Daniel. Mais non seulement il va lui donner le rêve, il va lui donner également la solution du rêve, l'explication du rêve. Et là, Daniel va louer. Oui, il va louer le Dieu des cieux parce qu'il n'y a que lui qui puisse donner, révéler les choses. Il va se présenter devant le roi, il va dire au roi, « Voilà, je sais quel est ton rêve. Je sais aussi quelle en est l'explication. » Et à son tour, le roi va faire quoi ? Il va louer le Dieu de Daniel. Et c'est ainsi que Daniel, chapitre 2, verset 19 à 21, nous dit « Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le nom le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Magnifique. Parce qu'au départ, les choses n'étaient pas bien parties pour ces magiciens, ces astrologues. Une mort certaine pesait sur leur tête. Et comme on a l'habitude de dire dans les contes de fées, les choses, parfois, bien souvent, se terminent bien. C'est une belle fin. Daniel donc répondit en présence du roi et dit « Ce que demande le roi est un secret des sages, que les sages, pardon, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître à Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Et là, Daniel, un homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, déporté, qui ne fait pas partie des grands de la cour du roi, mais quand même au service du roi, alors que ce roi qui est un monarque absolu, qui a le pouvoir sur la vie des gens, qui est capable de dire dans son décret, « Je mettrai à mort », celui qui a tout pouvoir se retrouve tout petit, parce que dans sa confusion, il ne sait pas comment faire avec ce rêve. Et c'est celui qui est le plus petit, probablement, d'entre les serviteurs du roi, ce déporté, celui à qui on ne devrait pas accorder beaucoup de considération, c'est de lui que viendra la solution par Jésus-Christ. Oui, Daniel, en parlant au roi, va devoir mettre des gants. Il va préparer le roi à recevoir ce message dans son ensemble. Et par pédagogie, va dire au roi les différentes étapes. Et c'est ainsi qu'on va voir ensemble ces différentes étapes qu'on a déjà un peu abordées, donc de cette statue. La voici, elle arrive. Voilà. La tête d'or qui représente Babylone, 606 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras en argent, qui représentent les Mèdes et les Perses, de 539 à 531. Le ventre et les cuisses des reins, représentant la Grèce, 531 jusqu'à 168. Enfin, les jambes de fer, qui représentent Rome, là où nous allons plus nous attarder ce soir, sur l'Empire romain, de 168 à 476 après Jésus-Christ. Et pour finir, cette statue a les pieds en partie de fer et d'argile, donc, qui représentent les nations issues de l'Empire romain. Vous allez voir que ce sont des nations issues de l'Empire romain parce qu'il n'y aura pas de cinquième empire. Et ça commence à partir de 476 à plus. Et nous savons que l'histoire nous rappelle, nous le montre, que Rome est vraiment comme une verge de fer. Rome est vraiment cette main de fer. Rome casse tout. Rome brise tout. Rome va à la conquête des choses et des territoires. Et alors que cette cinquième nation qui n'aura pas vraiment de... ça sera pas une nation unie, elle sera issue de cette Rome avec plusieurs nations, vous allez voir. Voilà ce qu'on avait déjà vu aussi. Donc, d'abord, on a les Saxons, qui sont à l'origine de la nation anglaise, les Francs, bien évidemment, la nation française, les Alamans, origine, les Allemands, les Visigoths, à l'origine des Espagnols, les Suèves, les Portugais, les Lombards, l'Italie, les Burgondes, la Suisse, et ça, c'est les sept nations qui ont constitué la base de l'Europe. Et bon, disparaître donc les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Eux, ils ont disparu, ils ne sont pas restés. Ils se sont faufilés parmi les autres nations. Ils se sont dissous dans le décor. Ils ont donc disparu. Ils ont fait... Ils sont disparus, voilà. Donc les sept, on a déjà vu, les sept étapes de l'Union européenne, donc qu'on appelle Communauté économique européenne, la CEE, en 1957, avec pour base, vous pouvez le voir ici, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Pays-Bas et la République fédérale allemande. De 7, en 2004, on est arrivé à combien ? 25. Donc, vous pouvez lire, hein, je ne vais pas tout lire pour vous. Je vais lire pour vous parce qu'on ne va pas très bien. Donc, Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre, Malte, enfin... vient se former à une Union européenne à 25 membres cette fois-ci. Donc Daniel va dire à ce roi, c'est toi la tête d'or. Tu es en tête des choses. C'est toi le plus haut. Et non seulement tu es le plus haut, mais tu es le métal le plus, qui a le plus de prix, l'or. Et après toi, Daniel prend soin de dire, après toi, il y aura cette poitrine en argent. Et après, il y aura le bronze, et après, il y aura le fer. Et c'est ainsi de suite qu'il va donner l'explication, comme voulant dire au roi, tu ne seras pas éternel. Et les nations d'après toi ne seront pas éternelles non plus. Et nous pouvons voir dans l'histoire que leur règne va durer un siècle, deux siècles, trois siècles, et tout au plus cinq siècles. Mais jamais personne ne va rester plus de 1000 ans. Et pourtant, c'est le désir de tout gouverneur, de toute tête de puissance. Non, personne ne restera aussi longtemps. Et dans l'explication de Daniel, après toi viendra, après ton royaume, il y aura un autre royaume. Daniel ne laisse pas la place au doute pour ce roi Nebuchadnezzar. Daniel ne laisse pas la place pour l'illusion en disant à ce roi, peut-être que tu peux rester éternellement. Non. Daniel est clair dès le départ. Et il va lui parler à ce roi Nebuchadnezzar en lui donnant tous les détails de sa vision nocturne. Et nous savons très bien que cette partie de fer et d'argile, qui correspond certainement un peu plus à notre époque, de puissance en puissance, de règne en règne, nous arrivons à aujourd'hui. Alors, voyons un peu les choses qui ne sont pas très belles à voir. Cette petite corne. Le roi est averti que son règne ne sera pas éternel. Après lui non plus, les autres règnes ne seront pas éternels. Mais alors, pourquoi ? On pourrait se demander pourquoi cela arrive-t-il à un roi aussi imposant qu'il était à son époque ? Et pourquoi la révélation vient d'un simple homme, c'est-à-dire Daniel ? La puissance impériale rencontrera à ce moment-là la puissance divine. Jusqu'à présent, il pensait être Dieu sur terre. Jusqu'à présent, il pensait être le maître de l'univers, le maître du monde. Mais il va s'apercevoir que, au-dessus de lui, il y a un Dieu. Et que ce Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est celui qui donne le pouvoir à qui il veut. Et pourtant, Babylone, qui géographiquement est à l'opposé des promesses, du pays de la promesse, Babylone qui est également à l'opposé de ce qui est spirituel, parce que Dieu avait mis à part un peuple avec des promesses pour ce peuple. Et c'est à lui, à Nebuchadnezzar, avec son règne de Babylone, que Dieu a transmis le message. Je vis que cette corne fait la guerre aux saints et l'emportait sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » On est toujours dans Daniel chapitre 7, de versets 21 et 22, qui nous dit qu'à un moment donné, Dieu mettra de l'ordre. De l'ordre dans quoi ? Dans tous ces gouvernements qui tentent d'acquérir le pouvoir en écrasant les autres. Et un peu plus loin, versets 24 et 26, nous voyons ceci. « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains, entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement où il ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Voilà donc la dernière partie d'une dynastie, Rome, qui s'achève en 467. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de royaume qui sera uni. Il y aura des nations qui tenteront tant bien que mal de s'allier entre eux. Et nous savons très bien que ces nations représentent les pieds en partie de fer et en partie d'argile, donc en partie fort et en partie faible. Et nous voyons les unions qu'on peut avoir aujourd'hui, mais tout de suite, allons voir une petite carte qui nous montre un petit peu l'étendue de ce royaume à l'époque, donc royaume de Rome, avec les explications qu'on a eues tout à l'heure, les Ostrogoths et les Visigoths et tout le reste. On nous dit que le temps des temps et la moitié d'un temps, c'est la puissance du système papal qui va régner avec Rome, donc dans l'Église chrétienne de Rome. Et cette puissance papale, vous allez le voir, va durer 1260 ans. Alors les 1260 années, c'est depuis 538 jusqu'à 1798 après Jésus-Christ, qui correspond à 1200 années. Mais comment on a trouvé ça ? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Allons voir un petit peu quelques éléments très importants qui peuvent être importants pour nous ce soir. Le catéchisme des provinces ecclésiastiques du Québec, Montréal et Ottawa en 1944. Donc ça remonte, hein. Voici les questions qui sont posées. Il y en a, j'en ai pris 4, il y en a beaucoup plus. Tous les hommes sont-ils obligés d'appartenir à cette Église unique de Jésus-Christ ? La réponse, oui. Tous les hommes sont obligés d'appartenir à cette Église unique fondée par Jésus-Christ, et quiconque sait que l'Église catholique est la vraie Église et refuse d'y appartenir ne peut pas être sauvé. En gros, ils étaient en train de dire, vous êtes dans l'Église, vous êtes sauvé. Vous êtes hors de l'Église, vous êtes perdu. C'est la mort. Deuxième question. Quels sont les attributs de cette Église ? Eh bien, les attributs de l'Église sont l'autorité, ensuite, donc gouverner les fidèles, les maintenir sous une certaine soumission, l'infaillibilité, elle ne peut pas se tromper, et l'indéfectibilité, c'est-à-dire l'éternel. Voyez, dès le départ, Daniel avait dit qu'il n'y aurait pas possibilité d'être éternel. Et on voit que là, quelqu'un se proclame ayant autorité, être infaillible et éternel. Voyons la prochaine question. En quelques personnes, ces trois attributs de l'Église sont-elles réunies ? Et ces trois attributs de l'Église se retrouvent réunis dans leur plénitude en la personne du pape, dont l'autorité et infaillibilité dureront jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un qui se proclame être infaillible. La dernière question pour ce soir, est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre des péchés commis après le baptême ? Et la réponse, surprenante, oui. Les prêtres ont le pouvoir de remettre des péchés commis après le baptême parce que, vous notez bien, parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Jésus leur a donné ce pouvoir. Alors, penchons-nous un petit instant sur cette période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, comme je vous ai promis. Comment nous allons pouvoir faire ce calcul ? Eh bien, c'est assez simple. Parce que Daniel chapitre 4 en parle, on nous dit qu'un temps est égal à une année. D'accord ? Daniel 4, verset 16, « Dans le roi de Babylone est resté 7 ans comme bête. » Vous rappelez-vous de cette histoire où le roi va perdre ses moyens mentaux, physiques, il sera comme un animal, et la Bible nous dit qu'il est resté donc 7 ans, donc 7 années. Une année est égale à combien de jours ? Eh bien, selon le calendrier lunaire, c'est 28 jours dans le mois, donc une année comporte 360 jours et non pas 365 jours. Et ça, vous le voyez donc ici, hein ? Calendrier donc lunaire plutôt qu'un calendrier babylonien. Le temps des prophéties, donc une année est égale à 360 jours au lieu de 365 jours, car nous sommes sous un calendrier solaire. Un temps vaut donc 360 jours. Des temps, donc deux temps, vaut 720 jours. Et un demi-temps vaut la moitié de 360 jours, donc 180 jours, qui font un total de 2260 jours. Et comme Ézéchiel 4,6 nous dit, un jour est égal à une année. La déduction est assez simple, le calcul est très simple à faire. Donc 1260 jours sont égaux à 1260 années. Mais vous aviez déjà la réponse tout à l'heure avec les dates. Là, c'est juste pour conforter un petit peu ce calcul. La période, donc cette petite corne, a commencé son œuvre en 538 et s'achèvera en 1798. Et pendant cette année, la petite corne va exercer son pouvoir sur la terre avec ses différentes traditions. Elle prendra fin en 1798 quand le général Berthier se fera arrêter et exiler le pape avec l'intention de mettre fin au pouvoir de l'Église catholique. Et on se rappelle de cette histoire où on nous dit que la bête sera blessée à mort. Et la petite corne, allons voir un petit peu sa nature, son origine, la chronologie et son lieu de naissance, son succès. Elle sera un pouvoir différent des autres. Les commentateurs s'accordent à dire qu'une petite corne désigne, dans le style prophétique, un pouvoir ecclésiastique. Son origine peut apparaître dans le principe, mais son pouvoir finira par s'établir et être terrible. Sa chronologie, elle doit paraître après les 10 premières cornes, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire après l'établissement des 10 nouvelles monarchies. Son lieu de naissance dans l'Empire Occident, parce qu'elle devra naître parmi les 10 cornes. Elle ne sera pas ailleurs. Elle ne viendra pas d'une lointaine contrée, mais juste dans l'entourage. Ses succès, elle devra prendre sa place, elle prend la place des 3 cornes. Enfin, son apparence, elle a des yeux semblables à des yeux d'un homme. Son langage, elle profère des paroles contre le souverain, on l'a vu tout à l'heure. Son projet, elle fera la guerre au sein du souverain. Et son objectif, d'avoir le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi ? De changer les temps et la loi. Et la durée de sa destinée. Les saints seront livrés entre ses mains, on a vu tout à l'heure, jusqu'à un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 années. Voilà la limite que Dieu lui a assignée. Après cela, suivra son jugement. Je vous ai remis un petit récapitulatif avec ici donc Babylone, la tête d'or, donc qui est représentée par Lion Babylone. L'Empire Perse, avec la poitrine, les bras en argent et c'est l'ours. L'Empire grec, le ventre et la cuisse, donc c'est le léopard. L'Empire romain avec les jambes de fer. Ça, c'est le mouvement un petit peu qui a motivé l'invasion de l'Empire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, avec les Francs, les Goths, les Visigoths et tout le reste. Voici un petit peu l'étendue du second siècle, le Grand Empire. On voit quand même que c'est pas mal comme empire, hein, même si ils n'étaient pas unis, mais ça fait quand même une surface assez conséquente. Et vous allez voir par rapport à la prochaine photo que leur conquête se fait sous les armes. D'accord ? Et lorsque on salue deux soldats français parce qu'ils étaient partis en mission, il faut savoir que lorsque Rome partait en conquête, ils revenaient généralement très riches. Je vous mets également un petit tableau, mais très rapide, hein, des événements du livre de Daniel, donc chapitres 7, 8, 9, 10, 11 et 12. mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus, on est sur Daniel 7 pour aujourd'hui. La Bible nous a dit tout à l'heure, et on le revoit à nouveau, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Cette bête va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Cette bête va donc profaner. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ça veut dire qu'il y aura là une persécution, un temps, une période de persécution. Il espéra changer les temps et la loi, et on le voit très bien aujourd'hui avec le nouveau calendrier et pas que. Eh bien, il y a un changement du sabbat au dimanche, par exemple. Il y a ce changement d'adoration. On n'adore plus un créateur, mais on adore une créature. Il y a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place autour de certaines églises, des idoles. Il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains. Ça, on l'a déjà vu. Quelles sont ces trois actions qui sont parallèles ? Premièrement, il prononce des paroles contre le Très-Haut, il opprime les saints et il espère changer les temps et la loi. Parfois, les photos parlent plus que mes commentaires. Alors, je vous laisse les analyser tranquillement. Ce soir, Jésus aimerait encore adresser un message, non pas à Astérix et Obélix, ce sont deux personnages de bande dessinée, mais bien à des hommes, mais bien à un homme. Et lorsque Dieu parle à un individu. Lorsque je vous ai parlé dimanche soir de ce Dieu qui va à la recherche de l'homme, il n'a pas dit à la femme et à Adam, « Où êtes-vous ?» Il s'adresse à l'homme en lui disant « Où es-tu ?» Et lorsque Dieu parle, dans tous les livres de la Bible, il interpelle l'individu. Même si en face de lui, il y a tout un peuple. Même si en face de lui, il y a toute une nation. Même si en face de lui, il y a des générations. Il parle à un individu. Ce soir, ce que Jésus aimerait dire au pape, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. » Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Tu reconnaîtras que Jésus, comme le seul chef de l'Église, tu ne te prosterneras devant aucune idole, donc aucune statue, aucune représentation. Reste et sois fidèle aux enseignements des Saintes Écritures. Reviens aux Écritures saintes. Observe les 10 commandements, et en particulier celui qui nous parle du sabbat. Ne change pas ce jour de repos en un autre jour. Prêche le salut en mon nom et uniquement en mon nom. Et dis au monde qu'il y a un seul médiateur. Et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Dans Daniel chapitre 7, verset 27, on nous dit ceci. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Après ces temps de dynastie 4, suivis de plusieurs nations qui forment un espèce de peuple là, qui essaie de s'unir les uns aux autres par des alliances humaines, mais qui ne parviennent pas, il y aura cette petite pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va venir frapper cette statue sur les pieds, en démolissant toute cette statue. Non pas que Dieu veut détruire les dirigeants, parce que c'est lui-même qui les a mis en place. Mais Dieu veut faire prendre conscience à cette humanité qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps où il donne le pouvoir et un temps où il arrête le pouvoir pour reprendre la main sur sa création. Un temps où il faudra mettre fin à ces marchands de mort. Un temps où il faudra mettre fin à ces faux enseignements. Un temps où il faudra mettre fin aux persécutions. Un temps où il faudra rétablir à nouveau la paix dans le monde. Et Daniel chapitre 7, verset 9 nous dit « Et je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux, sur l'un des trônes donc. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et ses cheveux étaient comme de la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le suivaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. la cour de justice prit place et l'on ouvrit les livres. Dieu est en train de dire dans le livre de Daniel, au chapitre 7, qu'au moment où il viendra pour faire quelque chose de bien précis. À un moment où il viendra pour ouvrir les livres, et pas n'importe quel livre. Il ouvrira le livre de ce monde et il analysera toutes choses. Il analysera la position de chacun et les œuvres de chacun. Et là, vous êtes déjà en train de vous dire, mais à quand ? À quand cela ? Lorsque je regarde ce texte, on nous dit que le Fils de l'homme, il est resplendissant. Et la dernière fois, je vous avais dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Mais pour le cas présent, la Bible nous dit que les vêtements sont plus blancs que blancs. Il évolue dans un char de feu, les roues sont en feu. C'est quelqu'un, c'est une puissance, c'est un être au-dessus de chacun d'entre nous, au-dessus de tous les gouvernements, au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Un Dieu, l'unique Dieu, celui qui créa toutes choses et celui aussi qui a créé l'homme à son image. Donc c'est lui qui va rétablir son image dans l'homme. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, nous avons la possibilité de choisir dès maintenant de prendre le bon chemin. Non pas le chemin de la mort, mais ce chemin de la vie qu'il a placé devant nous. Un chemin qui nous mène vers la vie éternelle. Et ce chemin, nous l'avons vu ensemble, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Chers amis, à vous qui devez prendre une décision, je me fais le porte-parole de celui qui veut parler. À toi qui es assis dans ces bancs ce soir. À toi qui es assis derrière ton écran. Jusque à quand ? Nous allons nous tourner vers une fausse adoration. Jusque à quand ? Nous allons nous soumettre aux autorités politico-religieuses de ce monde. Il est temps de s'affirmer. Il est temps de prendre position, non plus pour la mort, mais pour la vie. Tu as ce choix maintenant. Et ce choix, il ne durera pas toute la vie, parce que tu ne sais pas combien de temps ta vie durera. Le temps que Dieu te donne, ce n'est pas 1260 années. Cette période est déjà écoulée. Il ne te reste plus un temps des temps et la moitié d'un temps, il te reste le moment présent. Lorsque ces deux personnes, deux soldats, qui ont été reconnus de la Légion, moi je n'ai pas trop suivi, mais ils sont morts. Et le président est en train de s'adresser à ces deux morts comme s'ils étaient vivants. Mais la Bible nous dit, ceux qui sont morts n'ont plus de part sous le soleil. Ils ne ressentent plus la chaleur. Donc que vous leur mettez 10 grades, 10, je ne sais pas quoi moi, distinctions, ils sont morts et ils seront enterrés. Combien de temps nous reste-t-il avant que nous on décède ? Personne ne le sait. Mais si Dieu s'adresse à chacun d'entre nous en disant de prendre position maintenant, pourquoi refuser de le prendre ? Et je sais très bien que plusieurs d'entre nous, on a déjà pris cette décision. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et parce que nous avons choisi de le suivre, et parce que nous avons choisi de le suivre, nous savons qu'au moment voulu, il nous parlera pour nous dire, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, entrez et prenez possession de ce pays qui vous a été enlevé, parce que nous avons été comme pris d'otage par l'ennemi de nos âmes. Mais il va nous dire maintenant, l'ennemi est vaincu et il est vaincu pour l'éternité. Mon ami, n'attends pas demain. N'attends plus demain. fais le choix maintenant. Et que tu sois pape, que tu sois évêque, que tu sois politicien, que tu sois simple citoyen, Dieu te parle et il te parlera encore. Réponds à sa voix. Merci de votre attention. Je laisse la place maintenant au chant spécial.